Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce cours de 2014. Et je salue tout particulièrement un groupe d'une cinquantaine de scolaires de Pau qui viennent assister à ce cours. Je ne sais pas s'ils sont dans cet amphithéâtre ou dans un autre amphithéâtre. L'enseignement au Collège de France ne consiste pas à descendre un long fleuve tranquille dont on aurait dessiné à l'avance le cours. D'abord, parce qu'il est de règle de présenter chaque année les résultats d'une recherche nouvelle, ou du moins d'en exposer les objectifs, les hypothèses et les premiers linéaments, avec tout ce que cela implique, évidemment, en termes de travail préalable. Mais aussi parce que tout projet de recherche peut aboutir à une impasse ou s'avérer moins fructueux que prévu et inviter en conséquence à rebrousser chemin et à prendre une autre voie de traverse. J'avais entrepris en 2005 d'interroger et d'inscrire dans une typologie compréhensive les nouvelles formes d'activité citoyenne dont certaines faisaient preuve de vivacité, alors même qu'il semblait régner un fort désenchantement partout dans le monde, dans l'ordre de l'expression électorale. L'ouvrage de la contre-démocratie, La politique à l'âge de la défiance, le sujet reste d'actualité, tiré de ce cours, a été publié en septembre 2006. J'ai alors formé le dessein, plus vaste, de décrire les métamorphoses qui affectaient les démocraties contemporaines, en continuant par une description des mutations qui affectaient les institutions démocratiques proprement dites, dans la légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, publiée en septembre 2008, j'ai ainsi analysé les conditions dans lesquelles se développaient les institutions structurées autour de ces trois principes d'impartialité, réflexivité, proximité, alors même que les institutions majoritaires devenaient fréquemment suspectées. Avec La société des égaux, publiée en septembre 2011, j'ai poursuivi cette investigation en prenant comme objet les formes sociales de la société démocratique. En ayant ainsi analysé la démocratie contemporaine dans ses trois dimensions d'activité civique, de régime politique, les institutions et de forme sociale, je pensais être arrivé à un point où il me serait possible de tenter de donner un cadre d'ensemble à ces travaux sur les mutations contemporaines de la démocratie. C'est ce que j'ai voulu entreprendre dans mes cours de 2012 et de 2013. Auquel j'avais donné le titre, peut-être un peu trop imposant, « La démocratie, deux points, esquisse d'une théorie générale ». Le cours de 2012 a été consacré dans cette perspective à faire une théorie de l'indétermination démocratique, tandis que celui de 2013 a proposé un cadre d'ensemble pour traiter des pathologies de la démocratie. Voilà où j'en étais après avoir terminé mon cours de l'an dernier. Au printemps 2013. Je vais très rapidement rappeler les acquis de ces deux années avant d'expliquer pourquoi j'ai été amené cette année à me lancer dans une nouvelle direction à laquelle je n'avais préalablement pas pensé. Nouvelle direction auquel le cours de cette année va être consacré. Je rappelle donc d'abord les acquis de ces cours sur l'indétermination démocratique et sur les pathologies de la démocratie. Les acquis du cours sur l'indétermination démocratique. Nul ne songerait aujourd'hui à contester que la démocratie désigne la forme naturelle de l'idéal politique. Si elle apparaît depuis plus de deux siècles comme l'incontournable principe organisateur de tout ordre politique moderne, l'impératif que traduit cette évidence a cependant était toujours aussi ardent qu'imprécis. Bien loin de correspondre à une simple incertitude pratique sur les voies de sa mise en œuvre, le sens flottant de la démocratie participe en fait de son essence. Il évoque un type de régime qui n'a cessé de résister à une catégorisation indiscutable. C'est de là que procède d'ailleurs la particularité du malaise qui sous-tend son histoire. Le cortège des déceptions et le sentiment des trahisons qui l'ont toujours accompagné ont été d'autant plus vifs que n'a cessé d'être inaccompli sa définition. Un tel flottement constitue le ressort d'une quête et d'une insatisfaction qui peinent du même coup à s'expliciter. Il faut partir de ce fait pour comprendre la démocratie, en elle s'enchevêtre l'histoire d'un désenchantement et l'histoire d'une indétermination. Cette indétermination démocratique s'enracine dans un système complexe d'équivoques et de tensions qui ont structuré dès son origine la modernité politique, comme le montre l'étude des révolutions anglaises, américaines et françaises. On peut en préciser les manifestations en distinguant ce qui est de l'ordre de tensions structurantes, ce qui relève d'ambiguïtés structurelles et ce qui renvoie en fait à des divergences théoriques ou politiques sur la notion de démocratie. On peut ainsi d'abord distinguer quatre tensions structurantes de la démocratie. Celles en premier lieu qui sont liées à la fonction de représentation. Celle-ci en effet classiquement deux dimensions, l'organisation d'une délégation d'une part et la production d'une figuration de l'autre. Le représentant peut ainsi être le mandataire du représenté ou son image. Le problème est que ces deux approches conduisent à des conceptions et à des qualités relativement opposées. Le mandataire doit être d'abord fonctionnellement capable d'assumer la mission qui lui a été confiée. Il s'établit donc avec lui une différence constitutive entre le représentant et le représenté. À l'inverse, si le représentant doit être à l'image du représenté, c'est la qualité sociologique de similarité, de proximité qui est recherchée. Le représentant ne doit alors être qu'une sorte de double, équivalent et valorisant en même temps du représenté. Le problème est que ces deux qualités sont relativement antagoniques, rendant en permanence insatisfaite la quête d'une représentation adéquate. Tension, en second lieu, liée aux conditions d'obtention de la légitimité par les gouvernants et les formes de cette dernière. Elles peuvent n'être que procédurales et reposer, par exemple, sur le verdict majoritaire des urnes. Mais elles peuvent aussi renvoyer une appréhension substantielle, plus exigeante donc de la volonté générale. Un pouvoir n'étant dans ce cas considéré comme pleinement démocratique et pleinement légitime que s'il est soumis à des épreuves permanentes de contrôle et de validation à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression majoritaire. Il devra par exemple se plier à des impératifs de mise à distance des positions partisanes et des intérêts particuliers, définissant une légitimité d'impartialité, de prise en compte des expressions plurielles du bien commun, définissant ce que j'appelais une légitimité de réflexivité, élargissant ainsi la nature des épreuves de soumission à la généralité sociale. La légitimité démocratique nécessitera alors le développement d'institutions comme les autorités indépendantes et les cours constitutionnelles. Elle se mesurera aussi à l'aune des pratiques gouvernementales, renvoyant à la perspective d'un nouvel art de gouvernement. D'un côté, une légitimité d'autorisation, de l'autre côté, une légitimité d'exercice. La légitimité d'autorisation est acquise de façon instantanée par l'élection, tandis que la légitimité d'exercice résulte d'une mise à l'épreuve et d'une appréciation continue des citoyens. Mais il y a loin du permis de gouverner que délivre la victoire électorale à la notion de bon gouvernement qui est la résultante d'une action dans la durée. L'écart entre ces deux dimensions est au cœur de la formation du sentiment de désenchantement démocratique. Désenchantement qui est aussi lié à la différence des qualités individuelles et politiques qui caractérisent le bon candidat électoral et le bon gouvernant. Le bon candidat doit faire preuve de proximité, séduire et prétendre pouvoir élargir le champ des possibles. C'est avant tout un homme de la parole. Le bon gouvernant met à l'inverse l'accent sur les contraintes. Il est jugé sur ce qu'il fait effectivement et doit inscrire cette action dans une durée en décalage avec les impatiences sociales et les accélérations permanentes du temps médiatique. Le problème est que l'écart entre ces deux figures n'a cessé de s'accroître à l'âge des réseaux sociaux et de la télévision. Tension, en troisième lieu, entre les différents régimes de temporalité du politique. La démocratie a historiquement été marquée par le souci de rompre avec le poids des traditions et des héritages. « L'histoire n'est pas notre code », disait fameusement Rabault-Saint-Étienne pendant la Révolution. La démocratie a ainsi toujours manifesté une préférence pour le présent. Mais elle s'est aussi organisée autour d'un projet de mise en forme dans le temps, d'un projet conduisant sur ce mode à contraindre le présent face à l'avenir. Ces différents régimes de temporalité renvoient à la distinction entre la notion de décision et celle de volonté. Des décisions peuvent être répétées, instantanées, alors qu'une volonté est un déploiement de l'être social dans le temps. La volonté est une construction, une invention, et ne prend sens et forme que dans la durée. Cette variable d'exercice qu'est le temps n'a été que très peu pensée dans les démocraties. Elle ne l'a été qu'à travers deux catégories techniques, la question de la durée des mandats et la théorie des élections fractionnées, pour des élections au Sénat, par exemple. Au moment de la Révolution française, il apparaissait, par exemple, impensable d'élire des représentants pour une durée supérieure à un an. Et c'est de fait ce que prévoyait la Constitution de 1791. Longtemps aux États-Unis, il a également été envisagé d'avoir des élus au Congrès pour un mandat de un an, et c'est à titre en quelque sorte de compromis que c'est finalement sur la base d'un mandat de deux ans que la Constitution a enregistré les choses, toujours en vigueur. On a même vu, pendant la Révolution française, prise la décision de nommer un nouveau président de l'Assemblée nationale toutes les semaines. La représentation était donc, de cette façon, remise en cause en permanence. Les élections fractionnées, comme celles qui sont utilisées pour élire les sénats dans beaucoup de pays du monde, constituent quant à elles un mécanisme tout à fait différent, car elles présupposent au contraire qu'on a une permanence du corps représentatif. Le corps est permanent et ses membres, eux, ne cessent de changer. Se met ainsi en place, du point de vue des temporalités, une tension entre ce qu'on pourrait appeler une démocratie de la décision et une démocratie de la volonté. Tension qui n'est résolue en fait par la superposition dans le moment constituant. Doivent ensuite être prises en compte les ambiguïtés structurelles de la démocratie. La première et la principale de ces ambiguïtés concerne la difficulté de saisir son sujet, le démos. Difficulté qui a une longue histoire. Elle s'est d'abord liée au XVIIIe siècle à l'oscillation entre les notions de plebs et de populus. À l'âge des révolutions, elle a ensuite résulté de la tension entre une appréhension juridique et philosophique du peuple, alors considéré comme un corps civique indivisible, et la considération sensible du peuple social, à la fois peuple-mouvement et peuple-condition. Mais au-delà de cette tension entre le peuple-corps civique et le peuple social, c'est l'appréhension sociologique même de ce dernier peuple-condition qui est problématique dans une société d'individus largement désubstantialisée. On est alors réduit à le saisir en le décomposant sous les espèces d'une addition de ces manifestations ou de ces figures. Peuple invisible des multiples situations d'oubli social, peuple histoire de l'évocation des lieux et des moments de mémoire, peuple principe, forme de tous les sujets de droit et expression des valeurs fondatrices du vivre ensemble enfin. Il est ainsi constitué, ce dernier, par ce qui fonde le projet d'inclusion de tous dans la cité. Cette polysémie du mot « peuple » en multiplie les figures qui peuvent être concurrentielles et entraîner en conséquence d'insolubles conflits de légitimité, car chacun de ces différents peuples a, en quelque sorte, ses représentants spécifiques. Les assemblées parlementaires représentent le peuple électoral, le peuple arithmétique de la majorité. Les conseils constitutionnels et les cours suprêmes ou les cours suprêmes représentent le peuple principe. Les enquêtes sociales révèlent le peuple invisible et de multiples organisations de la société civile mobilisent le peuple événement, aussi appréhendé comme peuple social. Cette polysémie est redoublée par l'incomplétude du peuple électoral arithmétique, supposé exprimer au moment d'une élection la volonté générale. Ce peuple n'est toujours de fait que l'expression d'un fait majoritaire, en outre de plus en plus mince dans les régimes démocratiques. Tout l'édifice démocratique, j'ai longuement insisté sur cette question, repose du même coup sur la fiction d'une majorité équivalent à la totalité, fragilisant de la sorte la capacité représentative de l'élection. Si cette dernière a l'intérêt de représenter un pouvoir du dernier mot et de trancher à un moment donné les différends, les antagonismes sociaux et les conflits d'intérêts, je rappelle qu'il y a dans le verbe grec « kratéine » l'idée de l'emporter sur autrui, elle ne peut du même coup prétendre à disposer d'un monopole de légitimité, faute d'être la seule expression de la généralité sociale. Les divergences théoriques et politiques sur la notion de démocratie prolongent l'effet de ces tensions structurantes et de ces ambiguïtés structurelles. Les équivoques sur le sens, le cadre d'exercice et les formes de la souveraineté populaire sont là centrales. Elles ont pris leur source dans le fait que la mise en place des procédures représentatives s'est dès l'origine imposée comme une évidence fonctionnelle, mais que cette évidence a historiquement recouvert une ambiguïté majeure. D'un côté, en effet, le système représentatif a été appréhendé comme un simple artifice technique résultant d'une contrainte purement matérielle, la difficulté de considérer le peuple tout entier comme législateur et magistrat dans une société de grande dimension. Approche qui suggérait cependant implicitement qu'un tel système représentatif n'était qu'un pis-aller, le substitut forcé à un impossible gouvernement direct de l'ensemble des citoyens. Ce dernier gouvernement direct constituant dans l'absolu le système politique idéal. Mais l'instauration de procédures représentatives a aussi, d'un autre côté, été explicitement rapportée à une vision proprement positive de leurs vertus intrinsèques, créant des conditions, par exemple, plus favorables pour la délibération. Le gouvernement représentatif a alors été considéré dans ce cas comme une forme politique originale et spécifique, définissant un type inédit de régime qui ajoutait donc une quatrième espèce à leur typologie classique. Ces deux approches étaient contradictoires, dans la mesure où le gouvernement représentatif était appréhendé dans le premier cas comme un équivalent de la démocratie, alors qu'il constituait plutôt dans le second un dépassement dans le sens d'une limitation de celle-ci. La frontière entre ces approches a de fait été masquée par la nécessité pratique d'adopter des techniques représentatives. Mais elle a été intellectuellement brouillée dès lors que s'est progressivement imposé le vocable de « démocratie représentative » tôt utilisé pendant la Révolution, dès 1792, pouvant renvoyer aux deux idéotypes extrêmes de l'aristocratie élective, l'expression on sait était forgée par Rousseau, et de la démocratie immédiate, la formulation est de Condorcet. Dans un cas, la démocratie est comprise comme simple consentement périodique des gouvernés aux gouvernants et la séparation des deux, impliquant de fait la reconnaissance d'une différence de capacité entre eux, renvoyant dans ce cas ce qu'on pourrait appeler une simple démocratie d'autorisation. C'est de cette façon que Sieyès en France et Madison aux États-Unis concevaient le gouvernement représentatif. De l'autre, elle est considérée comme un exercice directement actif de la citoyenneté qui trouverait son expression accomplie, mais limitée dans son champ, dans l'exercice du référendum. Je rappelle que le cours cette année sera justement consacré à l'analyse du référendum, la place du référendum en démocratie. C'est le système de ces indéterminations qui permet de comprendre la polysémie du mot démocratie. Les batailles sémantiques pour sa définition ont été permanentes. D'où la célèbre remarque de Blanqui, stigmatisant ce mot vague, banal, sans acception précise, qui en faisait à ses yeux un mot en caoutchouc. Mais ce ne sont pas vraiment des définitions normatives, concurrentes, qui se sont affrontées. Pour y voir soit l'emblème de tous les maux ou l'idée absolue du bien politique. Avant d'être unanimement célébrée depuis relativement peu de temps, les variations du mot démocratie peuvent en fait simplement être rapportées aux différents pôles constituants des indéterminations démocratiques, comme le montre par exemple le rapport historique entre les deux notions de gouvernement représentatif et de démocratie. Ces tensions, ambiguïtés, différends ont longtemps été partiellement masquées ou secondarisées de différentes façons. Par la dynamique conquérante du suffrage universel d'abord et des divers droits politiques, qui a conduit à mettre l'accent sur la citoyenneté comme statut en mettant au second plan la citoyenneté exercice. Cette distinction de la citoyenneté statut et de la citoyenneté exercice est fondamentale pour retracer l'histoire de la démocratie dans les différents pays. Masquée ensuite par l'évidence historique des ruptures à accomplir avec les régimes despotiques et tyranniques, instaurant un régime évident de priorité. Mais aussi, et c'est très important, par la vision relativiste prudentielle qui avait marqué de son empreinte la période de critique du totalitarisme. Ce travail sur l'indétermination démocratique a donc fait l'objet d'un cours relativement cohérent en 2012 et je l'ai prolongé en 2013 par une réflexion dont je rappelle rapidement quelques éléments sur les pathologies de la démocratie. Ces pathologies de la démocratie, j'ai en effet cherché à les définir à partir des formes de l'indétermination démocratique. Et je les ai définis comme la résultante d'une dénégation de l'indétermination démocratique et comme une prétention en résoudre les apories sur le mode d'une réduction et d'une polarisation. Je peux en donner deux exemples parmi les plus saillants pour rappeler ce qui était la démarche de ce cours de l'an dernier. La première, c'est la conception de la représentation comme incarnation. Et la seconde, ce sont les théories minimalistes de la démocratie. La représentation-incarnation, comme pathologie de la démocratie, on peut l'appeler pathologie de la démocratie parce qu'elle prétend résoudre les apories de la représentation-figuration en érigeant un pouvoir-société, supprimant donc en soi la distance entre le pouvoir et la société. Et on le sait, ce sont les régimes totalitaires du XXe siècle, qui ont de la sorte renoué avec l'idée d'incarnation et sécularisé la vieille notion théologique de corps mystique. Pour reprendre une formulation de Carl Schmitt selon lesquelles les concepts politiques centraux ont souvent été des concepts théologiques sécularisés. Dans l'univers nazi, l'État était ainsi présenté comme la figure, la Gestalt, du peuple politique. C'est dans la figure du Führer qu'était censé s'opérer le plus visiblement cette unité-identité. C'est en lui que la puissance collective devenait réalité tangible. La volonté politique qui se forme dans le Führer n'est pas la volonté personnelle d'un individu, mais la volonté générale d'une communauté, soulignait un des idéologues du régime. Une telle volonté générale, poursuivait-il, n'est pas une fiction. Elle est une réalité politique qui trouve son expression dans le Führer. Ce Führer, disait un autre chant du régime, incarne la volonté de la totalité. La loi vécue de la communauté a acquis en lui chair et sang. Et Carl Schmitt théorisait cette vision de la représentation-incarnation en parlant de contemporanéité immédiate et même, allusion aussi à cette sécularisation des concepts théologiques, à une présence réelle qui suggérait la constitution d'un signe efficace exactement sur le mode de ce que sont théologiquement des sacrements dans le monde chrétien. Signe efficace. Dans le fascisme italien, le parti se présentait pareillement comme l'âme du peuple. Et l'État fasciste était ainsi jugé par ses promoteurs parfaitement représentatif parce que, je cite un texte constitutif du régime, il était en perpétuel contact avec les masses, sachant en diriger les aspirations, les instruire, veiller à leurs intérêts. Et c'est en cette position fonctionnelle qu'il était structurellement populaire. Disait un proche de Mussolini, disait, c'est un État éminemment démocratique, en ce sens qu'il adhère étroitement au peuple, qu'il est constamment en contact avec lui, qu'il pénètre la masse par mille voies, le guide spirituellement, en sent les besoins, en vit la vie, en coordonne les activités. Nous sommes donc là à 100 lieues d'une représentation comprise comme délégation, mais d'une représentation radicalement substantielle. Et ce parti-peuple ne pouvait se concevoir sans un homme-peuple qui en exprime de façon immédiatement sensible les qualités. Tous les grands mouvements totalitaires insisteront sur le fait que leur chef était l'homme le plus représentatif, celui qui pouvait souffrir toute la passion du pays et emporter toute la flamme. Et la pyramide de représentation qui attachait la société au pouvoir trouvait sur ce mode de l'incarnation sa garantie et sa vérité. Le chef représentant, incarnation de la société, est là la personne indissociablement éminente et quelconque. Elle est à la fois singularité et multitude, figure rigoureusement supposée à celle de tout un peuple. D'où cette apostrophe fameuse dans les réunions publiques où on pouvait lancer au leader « Tuez-nous tous », comme si son pouvoir n'était que la projection de la société. Et c'était la foi dans cette équivalence qui était le ressort et le semant et le ciment du régime. C'est donc sous les espèces d'une identité substantielle, abolissant l'antique distance du représentant et du représenté, que les régimes totalitaires ont prétendu dépasser les apories de la représentation, disons la difficulté de la figuration. Le schéma d'ailleurs était exactement le même dans l'univers soviétique, et le parti unique était justifié en tant qu'il n'était que la forme de la classe, objectivement homogène. La classe prolétarienne égale le parti communiste russe, égale le pouvoir soviétique. Le pouvoir soviétique égale le comité central égale le bureau politique égale le premier secrétaire. Le représentant est dans ce cadre la pure icône de la classe, issue qu'il est d'un parti lui-même simple forme de cette classe. Et c'est l'emboîtement de ces équivalences que je viens de rappeler qui avait conduit Soljenitsyn à qualifier Staline d'égocrate. Commentant ce néologisme, Claude Lefort a justement souligné que l'écrivain avait ainsi voulu suggérer que le personnage n'était pas intelligible s'il restait qualifié par les expressions usuelles d'autocrate, de dictateur, de despote. Avec l'égocrate, écrit Lefort, se réalise fantastiquement l'unité d'une société purement humaine. Avec lui s'institue le miroir parfait de l'un. Tel est ce que suggère le mot égocrate. Non pas un maître qui gouverne seul, affranchi des lois, mais celui qui concentre en sa personne la puissance sociale. Et en ce sens, apparaît comme s'il n'avait rien en dehors de soi, comme s'il avait absorbé la puissance de la société, comme si, égo absolu, il pouvait indéfiniment se dilater sans rencontrer de résistance dans les choses. Et effectivement, Staline pouvait ainsi dire, plus fort que Louis XIV, la société, c'est moi. Si la réalité ne coïncidait pas avec de telles prétentions dans ces régimes totalitaires, c'est alors cette réalité qu'il fallait congédier, en même temps qu'il convenait d'éliminer les voix qui dénonçaient cette fiction et cet inachèvement. D'où l'action permanente de ces régimes pour substituer par tous les moyens au monde réel un monde factice dont ils possédaient seuls les clés. Ce sera l'entreprise de ce que Hannah Arendt a appelé l'idéologie et dont elle a analysé les mécanismes de production. Cette figure de l'homme-peuple a certes souvent été mise en scène de façon moins implacable, dans le cas du bonapartisme par exemple, mais c'est bien dans les régimes totalitaires qu'elle trouvera son expression radicalisée. Dans une perspective tout à fait opposée, on peut décrire une autre forme de pathologie de la démocratie. Les théories de la démocratie minimale prétendront ainsi aussi résoudre ces apories de la démocratie, mais sur le mode d'une réduction et non pas d'une polarisation dans ce cas. En minimisant la portée de la notion de gouvernement représentatif et en le limitant à une simple procédure de validation des gouvernants et en l'alliant parallèlement à une vision aristocratique du mécanisme électoral qui en élimine les contradictions structurantes. C'est donc se situer simplement dans l'un des cadres du pôle de l'indétermination. Ce qu'on peut appeler la démocratie d'autorisation a trouvé au XXe siècle, sous la plume de Schumpeter, sa définition la plus claire et la plus abrupte. Appliquant à la politique dans « Capitalisme, socialisme et démocratie », publié en 1942, sa vision de l'économie, il a défini la démocratie comme un système concurrentiel dans lequel des entrepreneurs politiques opèrent sur des votes pour obtenir le pouvoir de gouverner. D'où sa formulation célèbre, la méthode démocratique est un système institutionnel qui aboutit à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. Il était donc tout à fait erroné aux yeux de Schumpeter de parler de volonté populaire. Le pouvoir du peuple était seulement pour lui, dans les faits, de choisir ses dirigeants. D'où sa définition la plus concise de la démocratie. Démocratie signifie seulement que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. Schumpeter avait ainsi formulé ce qu'il appelait une théorie du commandement concurrentiel. Et Karl Popper lui emboîtera le pas dans « La société ouverte et ses ennemis », un livre de 1945, en appréhendant la fonction des élections comme étant avant tout celle d'un tribunal populaire et non pas celle d'une expression de la volonté générale. Cette vision minimaliste s'est souvent adossée à une conception prudentielle et relativiste, comme chez Kelsen, ou un souci prioritaire d'éviter le glissement vers le totalitarisme, comme chez Popper. Réaliser la démocratie, souligne ainsi Popper, ne veut pas tant dire mettre le peuple au pouvoir que s'efforcer d'éviter le péril de la tyrannie. C'est donc une définition négative de la démocratie. Ce type d'approche, qui a toujours ses thuriféraires, a de fait été marqué par le spectre du totalitarisme. Mais il a aussi correspondu au souci de partir de la démocratie réelle, telle qu'elle fonctionnait dans les faits, avec ses inachèvements. Il est certain qu'en termes de pratique, c'est souvent à une simple validation des gouvernants que s'est historiquement réduite la démocratie dans les faits. Mais le problème de ces théories minimalistes de la démocratie est qu'elles érigent les inaccomplissements de la démocratie en une implacable loi des reins. On retrouve d'ailleurs cette expression de loi des reins pour formuler les théories minimalistes et réalistes de la démocratie chez d'autres théoriciens dits réalistes du début du XXe siècle, comme Michels, Ostrogorski ou Mosca. C'est en ce sens qu'on peut parler d'une pathologie, même si elle n'a évidemment ni la portée ni les conséquences de celles qui dérivent de la prétention à former une représentation-incarnation. Il y a une pathologie de l'excès dans certains cas, une pathologie de la limitation dans l'autre. Il faut encore souligner que cette démocratie minimale s'est historiquement enracinée en profondeur dans le présupposé d'une différence de qualité et de capacité entre élus et électeurs, renvoyant à une interprétation qu'on a souvent qualifiée d'aristocratique du gouvernement représentatif et qui avait été théorisée dès la fin du XVIIIe siècle par les pères fondateurs américains et certains des pères fondateurs français. En Amérique, ils avaient en effet explicitement et fermement défini la République américaine comme une forme de gouvernement représentatif radicalement opposée à l'idée démocratique littérale en son principe, et pas seulement donc pour des raisons pratiques tenant à la taille des républiques concernées. La véritable distinction entre les anciens gouvernements et le gouvernement américain, disait-on ainsi dans le Fédéraliste, c'est l'exclusion totale du peuple, en sa capacité collective, de toute participation au dernier, et non l'exclusion totale des représentants du peuple de l'administration des premiers. Le principe représentatif n'avait donc pas pour eux une fonction d'ordre procédural, il jouait plus encore le rôle d'un opérateur sociologique. L'effet de la représentation, soulignait ainsi Madison dans le célèbre article 10 du Fédéraliste, est d'épurer et d'élargir l'esprit public en le faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens, dont la sagesse est le mieux à même de discerner le véritable intérêt du pays, et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des conditions éphémères et partiales. Le propre de la représentation était ainsi pour ses pères fondateurs américains de produire un effet de sélection, de distinction, ayant pour conséquence de faire accéder au pouvoir des hommes plus capables que la masse des électeurs de discerner l'intérêt général. Il était, pour résumer les choses, de faire émerger une aristocratie naturelle. Du côté français, il n'est pas difficile de citer des formulations de Sieyès, de Barnave ou de Roederer, les principaux inspirateurs de la Constitution de 1791, proche de celle de Madison ou d'Hamilton. Sieyès disait ainsi, c'est pour l'utilité commune que les citoyens se nomment des représentants, représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. La très grande majorité de nos citoyens, poursuivait-il, n'a en effet ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Même son de cloche chez Barnave, il disait « Le peuple est souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs. Ses représentants peuvent seuls agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la conscience et la connaissance nette et profonde. » Ces formulations, on les trouvera répétées tout au long du XIXe siècle. En France, chez de nombreux républicains, il suffit de regarder de nombreux discours de Jules Grévy, par exemple, pour retrouver presque mot à mot des formules de Roederer ou des formules de Sieyès. Et même si ces formulations au XXe siècle seront ensuite souvent moins tranchées, l'esprit de distinction qu'elles reflétaient continuera de fait à sous-tendre les visions dominantes de l'élection, réduisant du même coup la démocratie à une procédure pour choisir ses chefs. La démocratie définie comme une procédure pour choisir les chefs est une formule de Max Weber. La seule différence avec l'époque de Madison et de Sieyès, étant justement que c'est alors le terme de démocratie qui sera dorénavant utilisé pour qualifier ou marquer cette dimension aristocratique. Bien d'autres exemples de pathologie de la démocratie auraient pu être choisis, mais l'important était là, dans ce bref rappel, de suggérer qu'elles ont tout en commun de nier l'indétermination démocratique et de réduire ces tensions constitutives sur le mode de simplification forcée le caractère problématique de son sujet, de sa nature, de son objet, de ses temporalités et de ses temporalités et de ses procédures étant masqué. À chaque fois, ses prétentions à la réaliser l'ont trahi ou même totalement défiguré. Le développement de l'idéal démocratique doit donc être appréhendé autrement. C'est par la démultiplication de ses formes et la complication de ses mécanismes qu'il peut progresser de façon réaliste et positive. À l'inverse, en effet, de ses tentatives historiques de simplification ou de réduction, il me semble qu'il s'agit de compliquer la démocratie pour l'accomplir. Et c'est autour de ce thème de la complication démocratique que je pensais initialement organiser ce cours de 2014. Mais je me suis rapidement aperçu que j'avais en fait déjà commencé à considérer les choses dans cette direction avant même d'avoir entrepris mon travail sur l'indétermination et les pathologies. En ayant implicitement proposé une forme de pluralisation des institutions démocratiques à l'issue du cours sur la légitimité notamment, et en ayant de fait aussi participé à une redéfinition des termes de la division des pouvoirs, compris sur le mode de leur démultiplication, dans mon travail sur la contre-démocratie. C'est en tout cas dans cette perspective de la complication démocratique que je peux maintenant resituer les résultats de ces deux recherches précédentes. Et j'en rappelle très brièvement les éléments pour bien faire apparaître ce troisième volet d'une recherche consacrée à la complication démocratique. D'abord, la pluralisation des institutions démocratiques. La démocratie polarisée considère les institutions majoritaires, celles qui sont soumises à l'autorité directe des gouvernants, et considère qu'elles sont l'expression adéquate de la volonté générale. Mais nous n'avons dit que ce pouvoir majoritaire n'était assimilé à l'intérêt public que par le biais d'une fiction, celle qui consiste à faire comme si le plus grand nombre valait pour la totalité. Fiction, certes, fonctionnellement nécessaire, car le fait majoritaire s'impose à l'esprit comme une procédure simple et incontestable en tant que principe de décision, principe du dernier mot, mais fiction, dont les effets doivent être encadrés par des mises en forme concurrentes et complémentaires du pouvoir de la généralité sociale, comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Et deux voies plus indirectes que celles de l'expression électorale peuvent être définies pour aider à constituer un pouvoir de cette généralité sociale. C'est donc la réalisation de la généralité par le détachement des particularités, une vision négative, par la distance raisonnée et organisée vis-à-vis des différentes parties impliquées dans une question. Le pouvoir, à ce moment-là, sera appréhendé comme un lieu vide. La qualité de généralité d'une institution est constituée dans ce cas par le fait que personne ne peut se l'approprier. C'est une généralité négative. Elle renvoie à la fois à des variables de structure qui peuvent en être le support, le fait d'être indépendant, par exemple, et à des variables de comportement, l'impartialité, le maintien de la distance ou l'équilibre. Et c'est elle qui définit la position d'institution comme les autorités de surveillance ou de régulation et qui les distingue au premier chef d'un pouvoir élu. En second lieu, ça peut être la réalisation de la généralité par le biais d'un travail de pluralisation des expressions de la souveraineté sociale. Le but est là de compliquer les sujets et les formes de la démocratie pour en réaliser les objectifs. Il s'agit notamment de corriger les inaccomplissements résultant de l'assimilation d'une majorité électorale à la volonté du corps social appréhendé dans sa globalité. On pourrait parler là d'une généralité de démultiplication. Et on peut considérer qu'une cour constitutionnelle participe d'une telle entreprise lorsqu'elle veille à passer au tamis de la règle constitutionnelle les décisions du parti majoritaire. Ces deux façons d'envisager la réalisation de la généralité ont en commun de reposer sur une approche de la totalité sociale qui n'est comprise ni sur le mode d'une agrégation arithmétique qui est avec l'idéal sous-jacent d'unanimité, ni dans une perspective moniste avec la référence à l'intérêt social qui serait conçu comme la propriété stable, l'essence d'un corps collectif ou d'une structure. Elle renvoie plutôt à la valorisation de ce que j'appellerais des visions plus dynamiques d'opérations de généralisation. On retrouve dans cette recherche de désubstantialisation une préoccupation proche de celle d'Habermas. Habermas, qui souhaitait définir de façon procédurale la souveraineté du peuple, et non plus substantielle. Mais à la différence d'Habermas, je me suis proposé d'élargir cet objet au-delà d'une dimension délibérative procédurale. Ces deux modes de pluralisation des institutions démocratiques sont associés aux deux nouvelles figures de la légitimité que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure, la légitimité d'impartialité et la légitimité de réflexivité. Contrairement aux légitimités d'établissement et d'identification, qui étaient indissociables de propriété comme appartenant intrinsèquement à certains pouvoirs, l'élection ou le concours donne un statut, par exemple, à ceux qui ont triomphé de l'épreuve indiquée, alors que ces qualités, ces formes émergentes, sont constituées par des qualités. Et donc, on passe d'une démocratie de statut ou d'éléments démocratiques de statut à des éléments démocratiques de qualité. Et dans ce dernier cas, la légitimité n'est donc jamais acquise. Elle reste toujours précaire, continuellement remise en jeu, dépendant de la perception sociale de l'action et du comportement des institutions. Ce dernier point est essentiel. Il traduit le fait que ces nouvelles figures sortent du cadre de la typologie usuelle distinguant la légitimité, produit d'une reconnaissance sociale, et la légitimité comme adéquation à une norme. Ces formes de légitimité mentionnées ont en effet un caractère hybride. Elles dérivent des caractéristiques des institutions, de leur capacité à incarner des valeurs et des principes, mais elles restent simultanément dépendantes du fait qu'elles doivent être perçues comme telles. On peut de la sorte concevoir que leur déploiement puisse faire entrer les démocraties dans un nouvel âge. Et le régime de légitimité qui émerge conduit à dépasser les termes de l'opposition traditionnelle entre les gardiens de la généralité républicaine, surtout préoccupés par la substance des choses, et les champions d'une démocratie forte, d'abord attentifs à l'intensité des procédures et de la mobilisation sociale. Une autre façon de concevoir cette démultiplication, cette complication de la démocratie, c'est de définir une conception élargie de la division des pouvoirs. La division des pouvoirs, il est très important de le rappeler, n'a toujours été conçue qu'à partir du rapport à la loi. Le législatif, c'est ce qui produit la loi. L'exécutif, ce qui l'applique et le traduit en décision opérationnelle, alors que le judiciaire veille à ce qu'elle ne soit pas contournée ou enfreinte. Les débats dans cette perspective, ceux de la coordination ou de leur séparation, sont limités. Mais il y a d'autres formes de division des pouvoirs que l'on peut envisager. Une autre forme, non pas à partir des rapports à la loi, mais à partir des fonctionnalités démocratiques. En distinguant, par exemple, comme le faisait déjà Fichte, les pouvoirs constitués, d'une part, et d'autre part, les pouvoirs de contrôle permanent. Fichte a poursuivi de cette façon les intuitions de Condorcet sur le développement d'une souveraineté complexe. Il en a à la fois radicalisé l'expression et précisé les conditions. Son dualisme démocratique se distingue par cela des conceptions traditionnelles de la division des pouvoirs. Ce dualisme est d'abord plus radical, d'ailleurs, que chez Condorcet. Il ne consiste pas seulement, comme chez ce dernier, à penser la distinction entre souveraineté déléguée et souveraineté de contrôle. Il radicalise la question de la division des pouvoirs en la simplifiant. Pour lui, la distinction essentielle est celle des puissances positives et des puissances négatives. L'exécutif, le législatif et le judiciaire, dit-il, sont tous des pouvoirs actifs, de façon complémentaire et qui peut évoluer dans le temps. Et donc, leur séparation, insistait Fichte, n'est que apparente, voire fictive. En fait, disait-il, c'est l'exécutif qui deviendra le véritable pouvoir central. C'était une vision extrêmement novatrice à son époque, car presque personne ne pensait dans ces termes-là. Et la théorie libérale de la séparation des pouvoirs était donc pour lui relativement inopérante, sauf à correspondre, comme c'était le cas chez Montesquieu, à la perspective d'un régime mixte qui équilibrerait démocratie, aristocratie et monarchie. La véritable division opératoire des pouvoirs se situait pour Fichte entre pouvoir positif, organisé autour de l'exécutif, et pouvoir négatif, pouvoir d'intervention critique autonome, que ce soit des citoyens directement, que ce soit de l'opposition organisée ou que ce soit d'institutions spécialisées. C'est dans le prolongement de cette perspective que j'avais forgé le concept de contre-démocratie. Système électoral et contre-démocratie étant à mes yeux complémentaires. Il y a là deux modes d'expression citoyenne, la validation d'un pouvoir d'un côté, validation épisodique, et la surveillance de ses actions de l'autre, qui, elle, est permanente. Et cela correspond aussi, d'ailleurs, à l'articulation entre gouvernement et opposition. Le monde moderne nécessite à l'évidence des pouvoirs forts et réactifs, mais ceux-ci doivent être en permanence contrôlés, leurs projets et leurs décisions soumis à la discussion, leurs actions évaluées et critiquées. Il ne s'agit donc pas tant là de séparer des pouvoirs que de distinguer des positions et des fonctions. Compliquer ne signifie pas condamner à l'impuissance, mais contraindre en permanence à l'explication, à la reddition de comptes, à l'évaluation et au contrôle. Ces deux volets du travail sur la complication démocratique, tels que je les ai rapidement présentés, se trouvaient ainsi de fait déjà largement mis en place, même s'il aurait naturellement fallu en approfondir dans chaque cas la conceptualisation. Et une troisième dimension de cette complication, touchant aux formes de la représentation, se trouvait déjà par ailleurs fortement esquissé chez moi dans un livre que j'avais publié en 1998, « Le peuple introuvable, histoire de la représentation démocratique ». La complication, dans cette troisième direction, prenait, tel que j'avais commencé à l'esquisser, la forme d'un projet de représentation généralisée. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce que j'ai tenté de faire plus récemment en écrivant mon dernier essai, Le Parlement des Invisibles, et lancé le projet Raconter la vie, qui prolonge intellectuellement et expérimentalement, si je puis employer cette expression, ce travail de réflexion sur la pluralisation des formes de représentation. Et il y a encore une quatrième dimension de cet impératif de complication à laquelle j'ai consacré plusieurs conférences et chapitres d'ouvrages collectifs, celui des temporalités politiques. Je l'avais abordé pour la première fois dans « La démocratie inachevée », publié en 2000, et développant à ce propos pour la première fois un commentaire issu de la discussion de la notion de démocratie complexe chez Condorcet. Et je peux aussi renvoyer sur cette question des temporalités à l'intervention que j'ai faite cette année au colloque de rentrée du Collège de France. Alors, j'aurais certes pu rassembler tous ces éléments sous la forme d'une synthèse en un ensemble cohérent et articulé. Mais j'ai jugé que ce travail de synthèse ne ferait alors qu'apporter une plus-value limitée par rapport à mes travaux existants. En fait, la théorie de l'indétermination démocratique et celle de ses pathologies n'avaient fait, que j'ai développé le plus récemment, n'avaient fait que donner un cadre compréhensif à un travail qui était déjà assez largement entamé. Mais j'ai en revanche alors pris conscience qu'il y avait une dimension de la vie démocratique que je n'avais jamais abordée de front dans mes travaux, seulement de façon littérale, et qu'il m'apparaissait véritablement indispensable de traiter, qui était le pilier manquant de ma réflexion sur la démocratie, celui d'une réflexion et d'un travail sur le pouvoir exécutif. Je n'avais fait que croiser ce pouvoir exécutif dans mon analyse de la contre-démocratie, mais sans l'approfondir, alors même qu'il est pour tous les citoyens et tous les individus la figure centrale et évidente du pouvoir tel qu'il le croise, l'affronte ou l'interpelle quotidiennement. D'où le thème de ce cours, le pouvoir exécutif, la question du gouvernement dans la démocratie, avec le projet de répondre à la question « qu'est-ce qu'un gouvernement démocratique ?» ou encore « qu'est-ce qu'être gouverné démocratiquement ?» J'avais présumé de mes forces en pensant que le temps de la synthèse était déjà venu. Il ne l'était pas encore. J'ai réfléchi, j'y reviendrai tout à l'heure, j'avais réfléchi la démocratie comme régime, la démocratie comme forme d'activité civique, la démocratie, enfin, comme forme sociale, mais il me fallait encore, et ce sera le thème de ce cours, aborder la démocratie comme pouvoir exécutif. Car cette question du pouvoir exécutif est en fait le grand angle mort de toutes les théories de la démocratie. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer ce tour, sujet dans lequel nous allons commencer à rentrer dans quelques minutes, en nous arrêtant quelques secondes maintenant.